Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On continue ce chemin sur le thème de la sainteté de l'Église et on arrive au numéro 826. Ce numéro fait un lien entre sainteté et charité. Est-ce que tu peux expliciter ce lien ?
La charité, c'est le sommet des vertus, et le sommet des vertus théologales. Saint Paul le dit dans 1 Corinthiens 13, que tout passera, même la foi ici-bas qui est dans l'obscurité d'ici-bas, et donc quand on sera au ciel, la foi passera, l'espérance elle-même aussi passe, parce que on espère ce que l'on ne tient pas encore, et quand on l'aura, on n'a plus à l'espérer. Mais la charité, elle, ne passe pas, parce que Dieu est amour. Et c'est l'amour, finalement, qui est la grande révélation du Nouveau Testament. Deus caritas est, Dieu est amour. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, certainement, a été un des grands témoins qui a voulu le rappeler pour l'Église tout entière, qu'il ne s'agissait pas de gagner son ciel à force de petits mérites et de petits efforts personnels, même s'ils comptent bien sûr, mais ils sont secondaires par rapport à la grande mesure de la charité, de l'amour. Et elle disait, je compris, et c'est cité au numéro 826 du catéchisme, que si l'Église avait un corps composé de différents membres, et on parlait de la hiérarchie il n'y a pas très longtemps, le plus nécessaire, le plus noble de tous, ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tout, les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Eh bien, Thérèse de l'Enfant Jésus avait très bien compris, finalement, que, comme dit saint Paul, toute la loi se résume dans l'amour, dans la charité. Et donc, à partir du moment où un chrétien vit au régime de la caritas, eh bien, il est déjà en cheminement vers la sainteté. Ubi caritas et amor, ibi
Deus
est. Là où est amour et charité, là Dieu est présent. Et je crois que le fait de le chanter le jeudi saint aide l'ensemble des chrétiens à se préparer à la Pâque et à rentrer dans le mystère du don de Jésus et de leur propre conformité à ce don.
La sainteté, c'est faire la charité ou c'est atteindre la charité ?
Alors, faire la charité, c'est un peu une déformation qui est arrivée dans les premiers siècles. C'est-à-dire, on voyait bien que donner à un pauvre, c'était faire la charité. Et souvent, le mot charité s'est réduit à cette dimension seulement d'aider le pauvre. Mais c'est bien sûr bien plus, puisque c'est aussi par la charité qu'on est uni à Dieu, que la communion des saints existe, que l'amour qui existe entre les membres de l'Église se maintient. Et donc la charité, c'est l'action de l'Esprit-Saint dans nos cœurs. L'amour de Dieu, donc la charité, a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint, dit saint Paul en Romains 5:5. Donc il ne faut pas réduire à une seule fonction, je dirais, la charité. Bien sûr, c'est très beau quand on donne à un pauvre avec charité et qu'on le fait par amour de Jésus. Quand saint François d'Assise embrasse le lépreux, il comprend que Jésus n'est pas dans le lépreux lui-même, mais dans le baiser fait au lépreux.
Oui. Donc la charité, ça correspond à l'amour de Dieu.
Et donc, l'amour de Dieu, voilà. Et il ne faut pas le réduire, bien sûr, à une seule dimension, qui est faire la charité.
Oui. Et Alors, au numéro 827, donc on rappelle qu'on est dans une église sainte, mais composée de pécheurs. C'est toujours un peu difficile à accepter, parce qu'on se dit, quand quelque chose se passe de bien, on dit c'est l'église. Quand quelque chose se passe de mal, on dit c'est les membres de l'église. Donc comme ça, on a l'impression que l'église est jamais atteinte par le péché, mais que c'est à cause des membres que tout va mal. Mais est-ce que tu aurais une image pour expliquer ça, pour expliquer l'église est sainte, mais qu'elle renferme des pécheurs?
Eh bien, les pères de l'église ont utilisé souvent l'image biblique qui est déjà suggérée par notre Seigneur, de la vigne et du vigneron. Quand on fait du vin, eh bien, il faut récolter des raisins et il faut les écraser et en faire sortir un jus. Et ils disent que ce jus, c'est le pressoir de la croix qui le réalise. Et ils ont cette image, donc, pour arriver jusqu'au bon vin et la fermentation qui est nécessaire avant de faire sortir des cuves un bon vin, ben, il faut toute une transformation, et ils ont cette image donc du travailleur, du vigneron et de la vigne. Et on se souvient dans l'évangile de Saint Jean que Jésus prend cette image, que le Père est le vigneron, que Jésus est la vigne et que nous sommes les sarments. Donc il y a vraiment déjà quelque chose qui préfigure tout ce travail du viticulteur, qui est très parlant sur ce qu'est finalement le travail qui se passe dans l'église, de ces grains qui sont petit à petit transformés en bon vin, et le bon vin sert en particulier pour l'Eucharistie. Donc on arrive au sommet des sacrements. Donc il y a quelque chose de très imagé, je dirais, pour faire comprendre cette transformation successive. Mais on pourrait trouver des images plus, je dirais, concrètes pour les gens qui autour de nous n'ont plus accès au travail de la vigne, parce qu'ils vivent en ville souvent et loin des travaux des champs et autres. Et on pourrait prendre l'image de la machine à laver. La mère de famille qui enfourne son linge, ben il est sale au début. Et puis la machine tourne, les vêtements se frottent les uns aux autres avec l'eau et la lessive. Et finalement, après rinçage, en sort blanc, en sort lavé, si vous voulez. Et donc c'est l'ensemble qui fait l'église, c'est-à-dire tout le processus qui va du moment où j'enfourne dans la machine jusqu'au moment où j'en extrais le linge propre, qui est l'église. L'église, je ne peux pas dire c'est le timing zéro, ou le timing seulement d'un instant. Je ne peux pas me contenter d'un instant, je regarde un processus complet. Et je pourrais prendre des images plus, je dirais, encore dans le temps, quand je regarde le travail de ce qui se passe quand il y a de la glace, quand les glaciers drainent avec eux des cailloux, eh bien les faces des montagnes tombent dans la glace, et petit à petit le glacier draine ces cailloux, puis quand on arrive au bout du glacier, ces cailloux sont tout ronds. C'est quand même étonnant. Les galets se sont formés en se frottant les uns aux autres. Ben, je dirais, d'une certaine manière, l'église est un peu l'image de ce glacier où les moraines font aboutir à des cailloux qui, au début, étaient peut-être très râpeux et très dangereux, très coupants, et puis finalement deviennent lisses et parfaitement aimables. Voyez, donc on peut le prendre sur des images longues ou des images courtes, et cela permet de comprendre ce travail dans le temps que réalise l'Église de Jésus-Christ, qui est toujours belle. Belle mais noire à cause de ses enfants, selon l'image du cantique.
Du cantique, oui. Ah, c'est incroyable, donc nos auditeurs peuvent avoir des moments de méditation théologique devant leur machine à laver,
et voilà,
ou aussi devant un glacier.
Et voilà, il faut savoir prendre tous les bons exemples trouvés, tirés des réalités concrètes, comme le Saint-Curé d'Ars, savait le faire auprès de ses paroissiens de sa petite cité de d'Ars.
Ah, très bien. Bon. Au numéro 828, il est question de du thème de la canonisation. Qu'on a vu que l'Église était sainte, qu'elle était composée de pécheurs, mais elle avait aussi la plénitude des moyens de salut, donc pour nous apporter à tous la sainteté, nous aider à nous sanctifier. Et voilà qu'on dit aussi que l'Église canonise. Alors qu'est-ce que cela veut dire, canoniser ?
Alors, le numéro 828 répond bien. Elle proclame solennellement que des fidèles ont pratiqué héroïquement des vertus et vécu dans la fidélité à la grâce de Dieu. L'Église reconnaît la puissance de l'Esprit de sainteté qui est en elle et elle soutient l'espérance des fidèles en les leur donnant comme modèle et intercesseur. Les saints et les saintes ont toujours été source et origine de renouvellement dans les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Église. Donc, je crois qu'il faut souligner ce passage, c'est-à-dire les saints sont donnés comme modèle pour, dans le fond, canaliser des forces spirituelles au moment où on aurait peut-être tendance à baisser les bras et à se dire « nous n'y arrivons plus, c'est trop difficile ». Eh bien non, les saints nous rappellent que la sainteté est toujours possible. Ce sont des héros, puisqu'ils ont réalisé ces vertus d'une manière héroïque, et donc ils deviennent des exemples particuliers pour l'Église.
Donc elle dit, pour cette personne-là, nous constatons qu'elle a atteint cette sainteté dont on a parlé lors des dernières émissions, c'est ça ?
Oui, exactement. La sainteté est la source secrète et la mesure infaillible de son activité apostolique et de son élan missionnaire. Et elle le réalise concrètement dans des figures, je dirais, que l'on peut désigner et que l'on peut vénérer et qui nous rapprochent de Dieu. Il s'agit seulement d'une vénération. On ne déclare saint que Dieu lui-même dans sa... Dans son immensité, mais il y a des saints qui ont participé mieux que d'autres à cette sainteté et que l'on peut déjà vénérer.
On va approfondir ce sujet dans la prochaine émission, si tu veux bien.
À bientôt.
À bientôt.